Et ben, tu disais, Enrique, que j'étais en chair à Onos et je suis trempé. Je me suis pris un orage en arrivant. Alors faites attention si vous nous écoutez sur la route, parce qu'on est un peu... il y a une vigilance orange-rouge. Et j'ai noté le Amor e Pace, c'est ça. Ah ouais, c'est même gravé, c'est même tatoué, effectivement. Oui, c'est un beau programme, effectivement. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. En direct pour ce pont du 1er mai, qui n'est finalement pas un pont pour tout le monde. Finalement, on est bien en direct et vous nous écoutez bien sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et sur internet graphite.net. Qui dit direct dit SMS si vous le souhaitez, réagir par SMS 06 95 065 026 06 95 065 026. J'ai même pas eu le temps de vous passer le générique du début, mais on s'en fout. Allez hop, on passe direct au point où on en est. Ça va nous permettre de nous sécher. Nous sommes le 3 mai, c'est... Alors il y a deux naissances... Non, il y a une naissance que nous allons célébrer aujourd'hui. Naissance le 3 mai 1695 d'Henri Pitot. Alors nous sommes au XVIIIe siècle déjà, donc c'était à l'époque où on découvrait pas mal de choses. Et lui va s'intéresser au problème des fluides, de tout ce qui va être écoulement de l'eau dans les rivières. Et il va travailler là-dessus. Alors Pitot, ça nous dit quelque chose, parce que ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'aéronautique, ils connaissent ces fameuses sondes Pitot qui permettent justement de mesurer la vitesse du vent. Donc c'est une application de ce qu'il a créé. Mais lui, on lui a confié en 1732 la tâche de mesurer l'écoulement de la Seine à Paris, parce qu'on n'avait aucune idée de cet écoulement, et donc lui il a créé pas mal d'instruments qui vont permettre de pouvoir mesurer la vitesse des fluides, et il va pouvoir être le premier à mesurer la vitesse de l'eau dans les rivières à différentes profondeurs. C'est totalement révolutionnaire à l'époque, parce que ça lui permet justement de déjà de se faire sa place, hein, au XVIIIe siècle c'est assez intéressant de pouvoir un petit peu faire sa place dans ce domaine-là, et ça lui permet également voilà, d'avoir une application qui a ensuite été déclinée sous différents supports, et donc là, les sondes Pitot que vous connaissez bien évidemment. Décès le 3 mai 1925, il est décédé à Toulouse. Tiens, Toulouse, qui est une ville qu'on associe très souvent à l'aéronautique et à l'aérospatiale. Et il est donc né là, il est mort, pardon, là-bas. C'est Clément Ader qui est décédé le 3 mai 1925, ingénieur français et donc pionnier de l'aviation, bien sûr. Clément Ader, qui est possiblement le premier à avoir fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air, c'était en 1890. En fait, Clément Ader, il est mort tard. Enfin, il est mort vieux, ça se dit pas. Il est mort assez vieux, il est mort à 84 ans, parce qu'on a toujours un petit peu ces images, et quand on parle de cet éphéméride, on a très souvent un petit peu ces gens qui sont décédés en pleine gloire, et notamment ceux qui sont les pionniers de l'aviation. Ben lui, c'est pas le cas, il est mort à 84 ans à Toulouse, après une reconnaissance nationale un peu tardive, mais il a quand même pu avoir cette reconnaissance de son vivant. Et le seul avion qui a survécu, c'est l'avion 3, un appareil qui est exposé, vous pouvez voir à Paris, au Musée des Arts et Métiers. Il est suspendu, c'est totalement fascinant. Si vous allez au Musée des Arts et Métiers, je ne peux que vous conseiller d'y aller au moins une fois dans votre vie. Si vous êtes de passage à Paris, il faut à tout prix aller voir ce Musée des Arts et Métiers. C'est peut-être pas nécessairement le musée que l'on va avoir spontanément quand on vient à Paris, et pourtant, vous allez passer à côté de choses formidables, et notamment de cet avion qui est déployé, qui est suspendu. Il y a un escalier d'honneur qui est assez magnifique. C'est un bâtiment qui est déjà pas trop mal à la base. Et donc là, il y a cet avion de Clément Ader qui est suspendu. Et donc, il est prêt à s'envoler. Enfin, c'est totalement fascinant au niveau de la scénographie. Il y a aussi un moteur à vapeur de Clément Ader qui est exposé en haut des marches. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce pionnier de l'aviation. Clément Ader décédé donc le 3 mai 1925. À Toulouse. Voilà, c'était l'éphéméride de cette émission. Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, et la rediffusion les mardis matins à 10h, vous permet un petit peu de vous intéresser à l'actualité scientifique au sens large. Hein. On parle de différents domaines de la science et de la technologie, bien évidemment. Et puis, il y a quand même aussi donc, l'actualité de ce qui se passe dans les laboratoires, des découvertes scientifiques, des pistes qui sont mises en avant au niveau de la recherche médicale. C'est ce qu'on évoque assez souvent. On évoque aussi assez souvent ce qui se passe au niveau spatial, parce que je vous le dis très depuis un certain temps maintenant. Cette décennie 2020 est totalement fascinante au niveau du spatial. Et puis, on traite de l'actualité, de l'actualité chaude, avec ces deux éléments qui sont arrivés cette semaine. Donc, le site Futura Science reprend un petit peu les différentes informations concernant déjà ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, avec ces métros, ces trains qui ont été brusquement immobilisés, des feux de circulation qui ont été éteints. Bien sûr, ça entraîne pas mal d'embouteillages, des frigos à l'arrêt. C'était lundi dernier, l'Espagne, le Portugal, ils ont subi une panne électrique d'une ampleur exceptionnelle. C'est le mot utilisé par le réseau électrique espagnol R2E. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est qu'en à peine 15 secondes, il y a 15 gigawatts d'électricité qui ont été soudainement perdus du système. C'est ce qu'a expliqué Pedro Sanchez, qui est le Premier ministre espagnol. Or, ces 15 gigawatts, ça correspond généralement à 60% de la demande en électricité de l'Espagne à cette heure-là. Donc, on a perdu en 15 secondes 60% de la demande d'électricité. Et la consommation électrique espagnole, elle s'effondre. Elle passe de 25 gigawatts à 12 gigawatts quelques minutes plus tard, et donc aux environs de 12h-12h30. Et donc, suite à un tel choc, la panne générale a forcé les habitants et les sociétés à modifier drastiquement leurs habitudes. Il y a certains supermarchés qui ont été contraints de fermer, il y a des usines qui ont été immédiatement arrêtées, il y a le trafic, bien sûr, qui a été bloqué également. Le trafic Internet, lui, s'est effondré. Les aéroports ont été paralysés, et puis il y a même eu l'Open de tennis de Madrid qui a dû être interrompu, mais ça, c'est peut-être un petit peu moins grave. En tout cas, les hôpitaux, eux, bah, ils ont pu poursuivre leur activité. Ils ont été quand même contraints de lancer en urgence leurs groupes électrogènes pour continuer leur activité, mais ça a été quand même assez catastrophique. Les causes de cette panne électrique sont encore inconnues, mais il y a quand même certaines hypothèses qui sont plus probables plus ou moins probables les unes que les autres, et qui, tout au long de la semaine, ont été mises en avant. Alors, il y a eu l'idée d'une cyberattaque qui a été évoquée assez rapidement, puis ça a été écarté par le président du Conseil européen, Antonio Costa. La possibilité d'un incendie sur une ligne haute tension entre la France et l'Espagne, ça a été mis en avant, et puis après ça a été réfuté par le gestionnaire français du réseau de transport d'électricité RTE. Une panne matérielle isolée, si ça pouvait avoir lieu, c'est-à-dire si on peut, suggérer qu'il y a eu un incendie sur une ligne, ça reste assez isolé, et en tout cas, ça n'aurait pas entraîné un blackout aussi important. La météo, ça a été également une hypothèse, en fait. Il y a un communiqué qu'on a d'abord attribué à l'opérateur portugais REN qui a mis en avant des oscillations anormales dans les lignes haute tension espagnoles. C'est un phénomène de bulle froide, en fait, qui aurait entraîné des variations extrêmes de température à l'intérieur de l'Espagne. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait une forte demande dans des zones chaudes pour mettre la climatisation, et dans les zones froides pour le chauffage dans un même pays. Donc tout le monde demande l'électricité en même temps. Mais ce mardi matin, le gestionnaire, justement, REN, a démenti être à l'origine de ce communiqué. Donc encore des fake news. Et puis l'agence météorologique espagnole a indiqué qu'aucun phénomène inhabituel n'avait été observé. Donc ça ne serait pas la météo. Toujours est-il que le réseau espagnol reste vieillissant, reste fragile. Il faut noter qu'en Espagne, environ 50% de l'électricité provient d'énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le réseau, il doit être constamment équilibré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut fournir autant d'électricité qu'il y a de demandes. Et ça, c'est toujours très, très compliqué. Je vous invite à consulter, par exemple, le site de RTE, où il y a pas mal d'informations sur ça, ils expliquent un petit peu justement la grande difficulté d'être en mesure, quasiment d'un point de vue instantané, fournir autant d'électricité qu'il y a de demande. Donc il faut anticiper beaucoup de choses, mais quand il y a des points très ponctuels, justement, il peut y avoir des variations très importantes en un très court de temps et qui n'ont pas été anticipées, ça peut être assez compliqué. Mais on est dans un continent, l'Europe, qui est assez interconnecté. Ça veut dire que s'il y a trop d'énergie dans un pays et qu'il y a un déficit dans un autre pays, comme tout ça est connecté, l'électricité peut être transmise d'un pays à l'autre. C'est un peu moins vrai, ou en tout cas c'est un peu moins facile pour l'Espagne, qui est un petit peu mal équipée et qui est un petit peu en bout de chaîne, entre guillemets, puis je ne parle pas du Portugal, qui est encore plus en bout de chaîne. Notamment l'Espagne est un pays qui manque encore de structures de stockage, et les interconnexions avec les autres pays sont un peu limitées, notamment les interconnexions avec la France. Donc ça favorise une stabilité au niveau de l'électricité. Actuellement, la capacité des interconnexions entre la France et l'Espagne est estimée à 2800 MW, ce qui est jugé totalement insuffisant pour permettre des échanges d'électricité efficaces. Et puis ça reste faible au regard de la taille du système électrique espagnol. Donc ce manque de connexion, ça limite la capacité de l'Espagne à exporter ses excédents d'énergie renouvelable ou à importer en cas de déficit. Désormais, la quasi-totalité de l'électricité a été rétablie en Espagne et au Portugal, mais cette panne, en fait, elle nous rappelle à quel point nous sommes dans une société moderne totalement accro à l'électricité et que on a tous vécu une panne électrique ponctuelle dans un quartier, par exemple. On voit très bien que ça s'arrête et on ne peut pas faire grand-chose. Là, c'était quand même à l'échelle d'un pays et c'est effectivement assez important, bien évidemment. Autre information, deuxième information, cette fois on revient en France et plus précisément on va sur l'île de la Réunion pour faire face à l'épidémie de chikungunya qui sévit sur l'île de la Réunion. Depuis le début de l'année 2025, la Haute Autorité de Santé avait préconisé début avril le lancement d'une campagne de vaccination qui visait en priorité les personnes de 65 ans et plus. Eh bien, cette Haute Autorité de Santé a été saisie en urgence par la Direction générale de la Santé en raison de la survenue de 3 événements indésirables graves, dont un décès notamment, chez des personnes de plus de 80 ans qui venaient de recevoir le vaccin. Et donc la Haute Autorité de Santé s'est prononcée en début de semaine en faveur d'un retrait des 65 ans et plus de cette campagne de vaccination. Les victimes présentaient en effet toutes des symptômes similaires à ceux d'une forme grave de chikungunya, ça veut dire une fièvre intense, des courbatures, des douleurs articulaires, des maux de tête, des éruptions cutanées. Et donc compte tenu de l'ampleur de l'épidémie quand même qui, elle, subsiste, la Haute Autorité de Santé a en revanche recommandé le maintien de la vaccination pour les 18 à 64 ans qui souffrent notamment de comorbidités, c'est-à-dire ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaco-respiratoire, de diabète, d'obésité. Donc, si vous comprenez bien, les plus de 65 ans, on arrête la vaccination. Pour les moins de 65 ans avec des comorbidités, on maintient la vaccination. Aucune alerte n'a été remontée aux autorités sanitaires chez les personnes qui ont moins de 65 ans et des formes graves de chikungunya peuvent survenir même chez les jeunes. Alors, le vaccin utilisé à la Réunion, il s'appelle IXCHIQ. C'est ce qu'on appelle un vaccin vivant. Alors, vaccin vivant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va contenir une forme modifiée du virus responsable du chikungunya. Et ce virus, il est transmis à l'homme par des moustiques, et notamment par le moustique tigre. Et donc ce vaccin, il contient une forme modifiée, en fait une forme atténuée du virus. Le virus, il va perdre son pouvoir infectieux, mais il va un petit peu conserver sa capacité à induire une protection chez la personne vaccinée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule injection qui est nécessaire pour obtenir une protection. Et donc ce premier vaccin, IXCHIQ, contre le chikungunya, c'est le premier vaccin à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe, c'était l'année dernière. Il est autorisé aux États-Unis depuis 2023 et son évaluation repose sur des études qui ont été menées sur un total de plus de 3600 personnes, dont une minorité était âgée de plus de 65 ans. C'est peut-être là que le bas blesse, en fait. Pour Jean-Daniel Lelièvre, qui est le chef du département d'immunologie clinique et des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor, le fait que ce vaccin soit un vaccin vivant pourrait avoir joué un rôle. Il dit « Il y a plus d'éléments indésirables pour les vaccins vivants atténués chez les seniors en général. » C'est ce qu'a expliqué notamment, il était interviewé chez BFM. « Il ne faut pas oublier que les sujets très âgés ont souvent des comorbidités, diabète, insuffisance cardiaque. » Et donc pour lui, si ces effets n'ont pas été détectés dans les études ayant servi à son autorisation de mise sur le marché, cela pourrait être en raison du faible nombre de volontaires de plus de 65 ans qui sont inclus dans les études. Donc effectivement, si on ne fait pas une étude approfondie sur les conséquences, un petit peu, je vais pas trouver le mot, pardon, le fait que on va tester ce vaccin sur les sur une population générale, et on va un petit peu voir les résultats. Si dans cette population générale test, on a une minorité, ou en tout cas pas énormément de personnes de plus de 65 ans, on va difficilement avoir des résultats statistiques qui nous permettent d'appréhender un petit peu les réactions qu'il peut y avoir chez ce groupe. En clair, c'est ça l'idée. Et donc, ça serait peut-être éventuellement la raison pour laquelle on n'avait pas nécessairement anticipé les réactions qu'il y a pu y avoir. Donc on parle de 3 événements indésirables graves, c'est-à-dire 2 personnes qui ont été très... fortement accommodé, on va dire, et d'un décès, en fait, à l'île de La Réunion. Rappelons que depuis le début de l'année, il y a quand même 9 personnes qui sont décédées à cause du chikungunya, pas à cause du vaccin, mais à cause du chikungunya, il y a eu 9 personnes décédées, et toutes avaient plus de 70 ans, et la maladie a entraîné 57 cas graves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la défaillance d'au moins un organe. C'est quand même assez important. Alors, les indicateurs, ils restent en rouge encore actuellement. Hein. Santé publique France l'annonce. Pour la semaine dernière, la maladie, elle a entraîné plus de 330 passages aux urgences, quand même pas aberrant. 20 décès encore en cours d'investigation pourraient être attribués à l'épidémie de chikungunya. Et il faut donc se prévenir contre les moustiques et leurs piqûres. Cette prévention, elle demeure essentielle pour lutter contre l'épidémie. Alors, il y a 2 mesures simples et sans risque à faire. L'élimination des déchets, surtout des eaux stagnantes, qui sont favorables à la formation des larves. Et aussi la protection de la peau, avec notamment soit des vêtements longs, des répulsifs, des moustiquaires. Voilà la situation assez compliquée au niveau de l'île de la Réunion, avec cet arrêt de la vaccination pour les plus de 65 ans à l'île de la Réunion. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Il fait très chaud dans ce studio, parce qu'il a quand même fait chaud pendant plusieurs jours. Et puis maintenant, alors ça y est, le soleil est un petit peu revenu timidement sur Compiègne. Mais faites attention quand même, si vous êtes dans les Hauts-de-France et l'île de France, ça va être compliqué apparemment aujourd'hui. On écoute un peu de musique, parce qu'on est quand même aussi sur l'antenne de Graphite. Si vous souhaitez réagir en direct par SMS, exclusivement par SMS, 06 95 065 026. However, c'était The Landskills sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On feuillette comme ça un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Et on va revenir sur un élément que j'avais déjà évoqué, mais il y a quelques années maintenant, concernant le vapotage. En fait, on revient encore sur cette actualité parce que on commence à avoir un petit peu plus de cas assez compliqué, notamment le cas de Brian Cullen. Elle vapotait en secret depuis ses 14 ans, elle a aujourd'hui 17 ans et elle vient d'être diagnostiquée pour le syndrome des poumons pop-corn. C'est une bronchiolite oblitérante. En fait, il y a une toux persistante, une respiration sifflante, un essoufflement. En fait, c'est une maladie rare, grave et surtout irréversible, qui est causée par l'inhalation d'une substance toxique qui s'appelle le diacétyl. Et cette substance toxique, elle est présente dans les liquides de cigarettes électroniques aromatisées. Au début des années 2000, il y a plusieurs ouvriers qui avaient respiré des vapeurs de diacétyl, une substance chimique qui était ajoutée pour notamment donner un espèce de goût beurré et crémeux au pop-corn. Et ils avaient aussi développé cette maladie. C'est pour ça que du coup, on avait appelé cette maladie la maladie des poumons pop-corn. Le diacétyl, il est utilisé pour la fabrication d'arômes de liquides de cigarettes électroniques, notamment les arômes de vanille et de noix de coco. Et son utilisation, elle est quand même aujourd'hui réglementée en France, mais les liquides contiennent toujours des cocktails un peu inquiétants de substances chimiques aromatisantes. Et lorsqu'ils sont chauffés, c'est ça qui est quand même assez compliqué, ces composés, ils peuvent se transformer en produits dangereux qui vont pénétrer très profondément dans les poumons et endommager notamment les bronchioles. Bref, au niveau des bronches, il y a une étude qui a été menée sur près de 40 000 jeunes âgés de 16 à 19 ans. C'est assez intéressant parce que c'est un panel assez large sur un panel large en termes de nombre, mais restreint en termes d'intervalle d'âge, 16 à 19 ans. Cette étude a été publiée dans la revue BMC Medicine et cette étude a montré que le vapotage est associé à une augmentation du risque d'essoufflement, de respiration sifflante, de douleurs thoraciques, de mucosité et de toux. Les résultats indiquent que le risque serait plus important quand le liquide contient de la nicotine ou bien quand il est aromatisé avec des arômes fruités plutôt qu'avec des arômes de tabac. Et une expérimentation a été menée par des chercheurs de l'INSERM qui avaient cette expérimentation rapporté que certains arômes comme les arômes de cannelle ou de menthe étaient plus toxiques que d'autres. Et donc, il y a eu un appel pour alerter les parents des dangers de la cigarette électronique. Mais en fait, il faudra aussi une réglementation un petit peu plus musclée pour mettre fin à la vente de ces produits. Des produits qui séduisent en fait de plus en plus les jeunes, les adolescents, parce que en plus d'induire une dépendance à la nicotine, ils ont des conséquences sur la santé dont on n'a pas encore pris toute la mesure. Et ça, c'est très souvent ce que je vous dis dans cette émission. Quand il y a un phénomène qui apparaît, un phénomène de société, la science ne va pas donner une réponse spontanée, instantanée, tout de suite, immédiate. Il y a un temps, ça a été le cas pour le Covid, ça sera le cas pour pas mal de choses, et notamment dans le cas des cigarettes électroniques. Ces cigarettes, elles se sont développées il y a peut-être une dizaine d'années, je dis ça de mémoire. On a commencé il y a quelques années à avoir des premières études qui déclaraient que les produits qui sont chauffés dans ces cigarettes électroniques dégageaient des vapeurs qui n'étaient pas nécessairement inertes. Ça, on le sait depuis un certain temps, et donc plus ça va, plus ces cigarettes sont consommer parce que au départ on avait dit mais c'est bien, ça vous permet d'arrêter de fumer du tabac, et puis finalement on se rend compte que c'est pas aussi bien que ça. Et voilà, on a de plus en plus de cas alarmants, de cas graves qui sont rapportés de plus en plus. Mais effectivement, on a aussi de ce côté-là un temps de latence nécessaire pour avoir une vision totalement exhaustive de l'utilisation de ces cigarettes électroniques. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission, et cet article de Futura Science revenait justement sur ce cas. Autre chose, comme on est dans une période, là je pense que je vais vous flinguer le moral, parce que depuis le début de cette émission, on n'a pas eu des choses bien réjouissantes, et ça va se poursuivre avec cette étude de chercheurs du réseau Pesticide Action Network Europe. En fait, ils se sont demandé comment, au cours des dernières décennies, avait évolué la contamination du vin par l'acide trifluoroacétique, le TFA. C'est une substance toxique très présente dans l'environnement. En fait, cette molécule, c'est le plus petit des polluants éternels qu'on a déjà évoqué dans cette émission et qu'on commence à entendre pas mal dans les médias, hein, les fameux PFAS, les polluants éternels. Et cette molécule est utilisée en tant que telle dans l'industrie chimique, mais c'est également un sous-produit de la dégradation d'autres polluants, notamment c'est certains pesticides utilisés en agriculture. Et en fait, les conséquences sur la santé sont encore mal connues, mais il y a des études qui montrent quand même que ce trifluoroacétique aurait des effets néfastes sur le foie, sur la fertilité, sur le développement embryonnaire. Et donc, ce TFA est aujourd'hui considéré comme une menace planétaire en raison de sa grande mobilité, de sa présence ubiquitaire dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout, et de son extrême persistance. Et oui, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Ce serait apparemment le contaminant le plus répandu dans les ressources en eau, notamment l'eau du robinet. Alors les scientifiques, ils ont mené des études, notamment sur des bouteilles de vin originaires de 10 pays d'Europe, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, et ces vins avaient été produits à différentes années, les plus anciens en 1974. Donc on a voulu avoir un peu une évolution de l'éventuelle contamination de ces bouteilles par ce trifluoroacétique. Et les résultats, eh bien, c'est que la contamination des vins par ce TFA s'accentue au fil du temps avec une augmentation exponentielle des niveaux depuis 2010. Le TFA n'était pas détecté dans les vins antérieurs à 1988, tandis que les vins de 2021 à 2024 présentent des taux moyens vraiment importants, avec des pics supérieurs à 300 mg par litre, c'est ce qu'on peut lire dans le rapport. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que tous les pays d'origine de ces vins étaient concernés par la contamination. C'est-à-dire que là, au moins, tous les vins, en fait, toutes les bouteilles qu'on a analysées de tous les différents pays d'Europe, eh bien, elles ont toutes été contaminées avec des taux de TFA qui dépassent largement les niveaux retrouvés dans l'eau. Même les vins bio contenaient du TFA. Les vins présentant des concentrations plus élevées de TFA contenaient également un plus grand nombre et une plus grande quantité de résidus de pesticides synthétiques. C'était ceux qui ne sont pas... Il y avait du TFA dans tous les vins, même les vins bio, mais alors ceux qui ne sont pas bio, en plus vous avez des résidus de pesticides qui traînaient dans les bouteilles. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les amateurs de vin, ou alors peut-être un petit peu moins pour ceux qui aiment les vins de très longue garde, hein. Effectivement, les vieux vins, pour l'instant, n'avaient pas encore eu de contamination au TFA. C'était un peu plus récent. Mais voilà, c'est pas réjouissant tout ça, mon Dieu. Non, c'est vrai, en fait. C'est pas réjouissant de ces vins de 10 pays qui ont été testés, qui contiennent tous un polluant extrêmement persistant. Et c'est ça qui est quand même assez compliqué, bien évidemment. Allez, bon, on va écouter un peu de musique, hein, parce que en plus, j'allais vous parler encore d'un truc qui va pas être réjouissant. On parlait de cette tendance bien-être sur TikTok, et c'est une catastrophe, en fait. On va parler de ça juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. Je vous aime bien sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine sur Graphite.
C'était The Cage avec Zéro sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, effectivement, tous les samedis sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Alors, je vous parlais donc de TikTok avec cette tendance bien-être qui est un piège et c'est assez compliqué. Les tendances qui valorisent la minceur extrême. En fait, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, de tout temps, depuis les années 90 par exemple. C'était The Heroin Chic, hein. On se souvient très bien de ces silhouettes un peu émaciées, des mannequins à la peau blanche et aux yeux cernés, hein. Tous vu ça. Dans les années 2000, il y avait des défis comme le ADA Challenge qui avait inquiété les parents autant que les professionnels de santé. Et bien aujourd'hui, c'est une tendance sur TikTok qui s'appelle Skinny Talk. Une tendance qui met en avant des corps très maigres et qui valorise des comportements alimentaires dangereux. Il y a quelques jours, la ministre du Numérique, Clara Chapaz, a saisi l'ARCOM et la Commission européenne, pointant en fait la responsabilité de TikTok dans la diffusion de ses contenus. En fait, cette tendance qui s'appelle Skinny Talk, donc, elle est utilisée par plus de 17 millions de personnes en France. Le réseau TikTok, hein, il est utilisé par 17 millions de personnes en France, pardon, et donc cette tendance Skinny Talk, elle montre des corps très maigres, mais pas que ça en fait. Cette tendance, elle véhicule aussi des messages déguisés en conseils de discipline ou en mode de vie sain. Il y a des phrases un peu qu'on peut avoir sur ces vidéos TikTok. Arrête de te récompenser avec de la bouffe, t'es pas un chien. Ou alors ton estomac ne gargouille pas, il t'applaudit. Moi, j'adore celle-là. Ton estomac ne gargouille pas, il t'applaudit. Des propos qui peuvent sembler anodins, mais qui cachent souvent des idées dangereuses venues des communautés pro-anorexie. Et comme ils ne contiennent pas de mots interdits, eh bien, ces propos échappent un peu à la modération. Et résultat, eh bien, l'algorithme va les mettre en avant parce que ça génère beaucoup de réactions. Et plus on regarde ce genre de vidéos, plus on en reçoit. Et donc, très vite, un simple like ou alors une vidéo regardée jusqu'au bout peut transformer le fil d'actualité en une suite de contenus qui vont glorifier la faim. Et le danger, c'est réel, surtout chez les plus jeunes, parce que sans s'en rendre compte, ils peuvent se retrouver enfermés dans une bulle de contenu toxique qui banalise un peu des troubles alimentaires graves. Et donc Clara Chapaz, la ministre du Numérique, s'exprime dans une vidéo, elle aussi postée par contre sur LinkedIn. Je fais de la protection des mineurs en ligne une des priorités de mon action politique et je ne laisserai pas les plateformes fuir leurs responsabilités. Ok, donc à ce titre, elle a saisi l'ARCOM et la Commission européenne afin de vérifier que le réseau social respecte bien le Digital Service Act. C'est un texte européen censé protéger les utilisateurs et notamment les mineurs. Et l'ARCOM a déclaré à l'AFP s'être d'ores et déjà saisi du sujet compte tenu du risque de santé publique que ce phénomène peut représenter. Et le 20 mai prochain, eh bien, son président Martin Adjari sera auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire lancée en mars sur les effets psychologiques de TikTok chez les enfants et les adolescents. Et donc face aux critiques, TikTok affirme avoir mis en place des règles strictes comme contre ce qu'on appelle le body shaming et les comportements dangereux liés à la perte de poids. Et donc lorsque l'on recherche le terme skinny talk, il y a un message d'alerte qui va s'afficher, mais les vidéos, elles restent quand même accessibles et elles sont largement relayées par l'algorithme. Donc cette tendance, hein, le hashtag Skinny Talk, eh bien, souligne un problème un peu récurrent des réseaux sociaux, leur capacité à amplifier des contenus nuisibles, souvent déguisés en conseils ou en challenge. Et donc si les mesures prises par les autorités et les plateformes sont un premier pas, eh bien, il faut bien sûr avoir de la vigilance de chacun qui reste de mise, pour protéger les utilisateurs et en particulier les plus jeunes. Et donc cette tendance bien-être, entre guillemets, hashtag Skinny Talk, c'est un piège total. Et voilà, et c'est assez dommageable justement parce que ça peut avoir des répercussions totalement dramatiques, bien évidemment. Mais voilà, c'est la société moderne, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais il va falloir essayer un petit peu de, je sais pas, un peu de modération. Mais c'est comme tout, en fait. Il ne faut pas tout interdire, il ne faut pas tout laisser aussi libre. Il faut avoir une certaine modération, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? En tout cas, c'est assez inquiétant, bien évidemment. Et soyez tous vigilants. Et puis, pour continuer un petit peu dans ce monde qui nous entoure et qui parfois nous échappe, je trouvais cet article de Futura. Alors, j'ai pas mal pioché dans Futura Science, qu'il y avait vraiment des sujets intéressants que je trouvais, que j'ai choisi un petit peu pour cette émission d'aujourd'hui, parce que ça pose question. TikTok, bon, il n'y a rien nécessairement de scientifique derrière, il y a juste des dérives d'un point de vue médical qui peuvent être dramatiques. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau de la science, on ne peut rien faire. Là, c'est à la fois une prise de conscience et ça va être une réglementation. Là, dans l'article qui concerne cette fois l'intelligence artificielle d'Apple, là aussi, ça pose question. Je vous lis l'article et puis après, chacun se fera un avis sur ça. Concernant la course à l'intelligence artificielle, justement. Alors, il y a Apple qui travaille aussi sur ce domaine-là et qui étudie discrètement un nouveau territoire médical avec un projet qui s'appelle le Project Mulberry. C'est une initiative confidentielle qui vise à développer un agent d'intelligence artificielle autonome capable de reproduire certaines fonctions d'un médecin humain. C'est un projet qui marque bien sûr un tournant stratégique pour Apple, qui cherche un petit peu à revitaliser ses ambitions dans le domaine de la santé numérique, après des débuts qui ont été jugés timides avec son application Santé. Ceux qui ont un iPhone, ils connaissent cette application Santé, qui a eu des débuts un peu timides. Et la dimension un peu révolutionnaire de ce projet réside dans sa conception même, c'est-à-dire que Apple ne développe pas un simple assistant d'intelligence artificielle, mais un véritable agent doté d'une autonomie décisionnelle supérieure. Et cette nuance technique, elle traduit, elle illustre un petit peu l'ambition d'Apple de créer un système capable d'analyser de façon indépendante des données médicales et de formuler des recommandations personnalisées. Et donc, l'application Santé qui sera revisitée va collecter divers éléments, diverses données, notamment des données métriques, via l'iPhone, via l'Apple Watch. Donc, ça peut être par exemple le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, l'activité physique. Et ça va permettre à cette intelligence artificielle d'établir un profil de santé complet de l'utilisateur. Et le système, il pourra ensuite suggérer des modifications de comportement spécifiques pour améliorer la santé globale. Et une des fonctionnalités majeures, ça concerne le suivi nutritionnel qui est actuellement absent de cette application santé standard. Et donc cette intelligence artificielle médicale interviendra dans cette dimension, bien que pour l'instant les détails précis restent confidentiels. Apple en fait travaille actuellement aussi sur une fonctionnalité qui va utiliser l'appareil photo pour analyser la posture pendant les exercices physiques et proposer des corrections en temps réel. Le développement en fait, d'un médecin virtuel, ça soulève bien sûr des questions cruciales sur la fiabilité de l'information médicale qui est générée par l'intelligence artificielle. Il y a eu des récents déboires d'Apple, notamment avec son système Apple Intelligence, qui était critiqué pour ses erreurs dans les résumés d'actualité. Et ces déboires soulignent les risques inhérents à cette technologie. Ces problèmes ont d'ailleurs conduit à la suspension temporaire de certaines fonctionnalités chez Apple. Et donc, dans le domaine médical, les conséquences potentielles d'une hallucination algorithmique, elles seraient particulièrement graves. Et pour contrer ce risque, Apple assemble actuellement une espèce d'équipe médicale pluridisciplinaire qui vont inclure des spécialistes du sommeil, de la nutrition, de la kinésithérapie, de la santé mentale, de la cardiologie. Et donc, ces experts, ils vont produire des vidéos explicatives que l'intelligence artificielle pourra recommander selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Exemple donné dans l'article de Futura, s'il y a des données cardiaques qui sont jugées préoccupantes, le système va orienter l'utilisateur vers une vidéo produite par un cardiologue sur les risques cardiovasculaires. Et donc Apple recherche également une personnalité médicale majeure, entre guillemets, pour incarner publiquement le service. Voilà le projet d'Apple. Donc ce projet représente désormais la priorité absolue de la division santé d'Apple, qui est dirigée par Sumbul Desai, qui est un médecin de Stanford. Et d'après les informations disponibles, le lancement pourrait intervenir de ce nouvelle application santé pourrait intervenir avec une mise à jour du système d'exploitation qui est attendue au printemps ou à l'été. Ça va être bientôt. Cette orientation stratégique témoigne de la volonté d'Apple de se repositionner dans la course à l'intelligence artificielle générative, un domaine dans lequel l'entreprise a pris un peu de retard par rapport à des concurrents comme Google ou Microsoft. Et donc le secteur de la santé numérique qui est en pleine expansion représente un marché potentiellement lucratif où Apple pourrait exploiter son écosystème d'appareils connectés. Donc pour Apple, l'enjeu, ça dépasse la simple diversification de ses services. Il s'agit de transformer profondément l'expérience utilisateur en matière de santé préventive et de suivi médical, tout en maintenant la réputation de fiabilité de la marque. Bon courage. Le succès de ce « docteur virtuel », entre guillemets, nous dit Futura, pourrait redéfinir la position d'Apple dans l'univers numérique, bien au-delà du secteur technologique traditionnel. Donc voilà ce qui nous attend, un futur docteur qui pourrait être une intelligence artificielle signée Apple. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toute la question, hein, je ne sais pas. C'est assez... Ça laisse un peu... perplexe peut-être, je n'en sais rien. Je sais pas, j'ai l'impression d'être négatif aujourd'hui dans mes analyses. Non, je suis juste étonné, on va dire. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On aura bien sûr des répercussions de cela un peu plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure. La science analysera tout ça, mais il va falloir un peu prendre de temps. Allez, on écoute un peu une dernière musique et puis on va se quitter avec la dernière information. C'est le décès de Jean-Louis Badevant, qui est un grand maître de la physique quantique qui est décédé, c'est ce qu'on a appris. On parle de lui juste après ce dernier titre sur l'antenne de Graphite.
Saved my life twice today. I was hanging around under an axe. I'm trying to run away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a man with a bottle. You saved my life twice today. I was hanging around under the sea, and you gave me air to breathe. I'm swimming away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a girl with a tan. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. Saved your life twice today. You were climbing a tree without your belt. I'm trying to run away, but you follow me everywhere. I can't stand the noise of your steps in the snow, in the sand.
You saved my life twice today. C'était Meringue, Alcohol and Us sur l'antenne de Graphite. Le nom de Jean-Louis Badevant, en fait, ça ne va pas dire grand-chose au grand public français, au contraire de celui d'Alain Spé. Alain Spé, on a peut-être un petit peu plus entendu ce nom-là, mais Jean-Louis Badevant, non. Mais il en sera tout autrement hein, des étudiants de niveau licence en physique ou encore plus des élèves de l'école polytechnique où il fut recruté comme maître de conférence en 1969. Il est devenu professeur de physique à cette école polytechnique en 1979. Il va s'investir dans cette fonction jusqu'à sa retraite en 2004. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages inspirés de son cours légendaire de physique quantique à l'école polytechnique. Il faut dire que l'enseignement de la physique quantique s'est réputé très difficile et il y a eu pas mal de bouquins qui ont été écrit sur ce domaine-là, mais alors c'était totalement difficile d'accès, on va dire. Et en France, il y a deux cours qui étaient déjà nettement plus accessibles, mais il s'agissait d'ouvrages un peu monumentaux et un peu encyclopédiques qui n'étaient pas vraiment adaptés à des débutants dans ces domaines. Et donc, dès les années 60, au début des années 80, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites pour rendre la physique quantique abordable à des étudiants ordinaires en licence. Et les cours de Jean-Louis Badevant peuvent être vus comme une remarquable synthèse intermédiaire entre les deux niveaux, c'est-à-dire quelque chose d'accessible mais quand même de soutenu. Et ça évitait un petit peu les complications mathématiques et ça permettait justement d'avoir des cours qui portaient vraiment sur la physique, sur l'astrophysique, la chimie quantique, la physique du solide, les particules élémentaires. Et ce qui était intéressant dans ces cours, c'est qu'il parlait aussi de sujets modernes, bien dans l'air du temps actuel, avec l'information quantique. Faut rappeler que l'UNESCO a lancé l'année internationale de la science et de la technologie quantique cette année, faut pas l'oublier. Donc la dernière version du cours de Jean-Louis Badevant est particulièrement intéressant et est accessible en ligne sous le titre 15 leçons de mécanique quantique. L'école polytechnique a annoncé le décès de Jean-Louis Badevant le 8 avril dernier. Il était né en 1939 à Bucarest et il avait ensuite poursuivi des études scientifiques à l'ENS, l'école normale supérieure, tout en ayant été admis au Conservatoire national de Paris comme pianiste. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est un grand maître de la physique quantique, mais ça n'empêchait pas d'être aussi un artiste. Jean-Louis Badevant est donc décédé. C'est ce qu'on a appris. C'est avec lui qu'on termine cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Alors soyez vraiment prudents, parce que ça risque d'être assez compliqué au niveau météo aujourd'hui sur la grande moitié nord, quoique aussi la moitié sud est assez concernée si j'ai bien compris, donc soyez prudents. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Bonne journée, à bientôt, au revoir.